Frères et sœurs bien-aimés, en ce dimanche, nous contemplons le Seigneur qui annonce à ses apôtres le mystère insondable de sa passion qui l'attend. C'est la troisième fois que notre Seigneur, en sa vie publique, annonce qu'il va devoir partir pour Jérusalem, beaucoup souffrir, être tué, mais le troisième jour, ressuscité. Pour la troisième fois de son enseignement, le Seigneur insiste sur la passion, car il est reconnu, acclamé par une grande partie du peuple saint d'Israël, qui voit en lui, à travers les miracles, autant de signes à interpréter, le Messie de Dieu. Il est l'action de Dieu. Il dit et cela se passe. Il touche l'aveugle. Il recouvre la vue. Il invite le paralysé à prendre son brancard, à se lever, à marcher et celui-ci de bondir et de s'en aller. Oui, le Seigneur se fait reconnaître comme le Messie par des signes puissants, par des miracles. Mais si saint Jean refuse d'utiliser le mot miracle dans son évangile, c'est parce que le disciple bien-aimé constate que plus le Seigneur accomplit de miracles, moins les foules cherchent les signes qui se tiennent cachés derrière chacun des miracles. Si le Seigneur rend la vue à tel aveugle, c'est parce que nous sommes ici-bas aveuglés sous le régime de la foi. Aveuglés car nous sommes aveuglés par le péché, mais aussi parce que nous ne voyons pas complètement les grands mystères de Dieu en plénitude. Saint Jean préfère parler de signes car les miracles sont à interpréter. Il pose la question de foi. Nous l'avons entendu il y a quelques dimanches. La grande question que le Seigneur pose à l'apôtre Pierre, « Pour vous, qui suis-je ? » Vous êtes le Messie. Il répond avec la foi d'Israël, mais il dépasse la foi d'Israël. Car notre Seigneur Jésus le Christ n'est pas seulement un homme parmi tant d'autres. Il est Dieu qui se tient caché en son humanité très sainte. Il est le Fils du Dieu vivant. Alors les apôtres et les disciples sont enthousiastes à la vue de ce signe et ils pensent à la manière du monde, à la victoire de Dieu sur cette terre, à la victoire d'Israël sur l'occupant romain, à la victoire du Messie qui va rendre à Israël sa souveraineté. L'enthousiasme est là, l'enthousiasme est grand. On reconnaît que notre Seigneur Jésus le Christ agit à la manière des prophètes. On le compare à Élie, on le compare à Jean le Baptiste, on le compare même à Jérémie et à Moïse. Et pourtant, notre Seigneur n'a de cesse d'avertir les apôtres dans leur enthousiasme qu'il va y avoir les heures sombres, celles de sa passion, où lui qui a été acclamé sera humilié, injurié, on lui crachera dessus. Pour l'heure, il est acclamé, on veut même à quelque endroit de l'Évangile s'en saisir pour en faire de lui un roi. C'est sûr que être nourri sans travailler, c'est presque un mythe français. Eh bien voilà que le Seigneur échappe à cette tentative de faire de lui le roi, à la manière du monde. Alors le Seigneur annonce et rappelle qu'il a été donné au prophète Isaïe dans sa lumière prophétique d'entrevoir que le Messie de Dieu, par lequel va venir la victoire du bien sur le mal, eh bien va passer par les tourments de la passion. Défiguré, contemple Isaïe dans sa vision prophétique, il ne ressemblait même plus à un homme. Homme de douleur, homme de souffrance, broyé par la souffrance, familier du mal, il est cet agneau muet que l'on conduit à l'abattoir et l'abattoir de la croix. Le Seigneur l'annonce à ses apôtres et là, pour la troisième fois, Mais Pierre ne tient plus. Pierre ne tient plus car il accompagne notre Seigneur Jésus le Christ. Il est le chef des douze, le chef des apôtres. Mais voilà que, annoncé ainsi, que le Seigneur va partir pour Jérusalem, la ville sainte où on a mis à mort chacun des prophètes, à part le grand prophète Élie, être tué, être mort, massacré. Où est donc la victoire de Dieu ? Et le Seigneur Jésus, vous l'avez entendu, reprend sévèrement Pierre, qui pense à la manière du monde. Et le bon Dieu de lui dire, « Arrière, loin de moi, Satan, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, elles sont celles des hommes. » Cette leçon spirituelle de ne pas enfermer Dieu dans nos pensées, dans nos petits calculs, ne pas réduire la présence même de Dieu, son mystère insondable, la sainteté de son nom et de sa loi, sa bonne volonté, son amour immense manifesté notamment dans la passion du Christ. Tout cela ne peut pas être réduit à nos petits calculs ou à la manière du monde. C'est la raison pour laquelle, lorsque le Seigneur nous apprend à prier, la première des sept demandes adressées à notre Père qui est aux cieux, c'est justement que le nom de Dieu soit en nous sanctifié. Que nous ne fassions pas de Dieu, finalement, une idole que nous façonnerons, tel le veau d'or, à notre image. Je connais Dieu, donc Dieu pense comme moi. Je veux cela et je suis un fervent. Ainsi donc, Dieu le veut. Eh bien, le bon Dieu n'agit pas avec nos manières. Il attend de nous, et c'est ce que le Seigneur affirme après avoir annoncé le mystère de sa passion, que nous renoncions à nous-mêmes, que nous prenions notre croix, et alors nous pouvons nous mettre à sa suite, car pour aller au ciel, il faut passer par le mystère de la croix. Renoncer à soi-même, qu'est-ce à dire ? Cela ne veut pas dire que nous devrions renoncer à toute nourriture. Cela ne veut pas dire que nous devrions renoncer à tout exercice intellectuel. Cela ne veut pas dire que nous devrions renoncer à toute vie de prière. Car nous confessons avec saint Paul que nous ne savons pas prier comme il faut. Ça ne veut pas dire que l'on doit renoncer à notre liberté, à notre libre arbitre, à notre conscience. Cela signifie que nous devons laisser Dieu agir en nous. C'est Dieu qui nous sanctifie. Renoncer à soi-même, c'est donc laisser le Christ grandir en nous. Et comme l'affirmait le pape Benoît XVI en ses méditations, si aller à la rencontre du Christ, c'est s'offrir à lui, eh bien le bon Dieu, lui, n'enlève rien, mais au contraire, il donne tout. C'est le mystère de sa grâce, pour laquelle le nom de Dieu en nous doit être sanctifié. C'est Dieu qui est le Saint, c'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui sanctifie son Église. Nous pouvons le dire avec les mots de saint Jean-Baptiste, c'est une image. Cela fonctionne mieux peut-être que l'enseignement théorique du divin maître. Saint Jean-Baptiste dit bien, lorsqu'il voit paraître le Messie, son parent, sur les bords du Jourdain, « Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. » Même pas digne de refaire ses lacets, dirions-nous. Et pourtant, Saint Jean-Baptiste, de donner la leçon spirituelle, « Il faut que je diminue pour que lui en moi grandisse. » Et saint Paul, de l'affirmer, il s'est rendu compte de cette gymnastique spirituelle, diminuer pour laisser Dieu agir, grandir, nous sanctifier, et à travers notre sanctification, sanctifier et l'Église et le monde. Saint Paul le dit, il le reconnaît au terme de sa vie, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. La bienheureuse Vierge Marie, dans le Magnificat, atteste de la même leçon spirituelle. Le Seigneur, il élève les humbles et il renvoie les riches les mains vides. Nous le voyons aussi dans les récits de l'enfance du Seigneur. C'est les pauvres, c'est les bergers qui sont les premiers avertis de la bonne nouvelle. Dieu est venu à votre rencontre, Dieu est le Sauveur. Les mages, avec leur intelligence et leur présence, n'arriveront qu'après. Renoncer à sa vie, renoncer à son existence, tout cela doit se faire à la lumière de Dieu, selon aussi la vocation à laquelle Dieu nous appelle. Si le bon Dieu nous appelle à la vie religieuse dans un ordre mendiant, nous comprenons qu'il faut alors tout quitter pour se mettre à sa suite. On comprend que lorsque l'on a la vocation au mariage, un père ou une mère de famille ne peuvent pas tout quitter, puisqu'ils doivent bien assurer la vie, la survie, l'éducation, l'élévation de leurs enfants. Chacun selon nos vocations, selon nos états de vie. Nous avons à entendre l'appel du Christ qui nous dit qu'il faut renoncer à nous-mêmes, c'est-à-dire à notre orgueil, pour ensuite, avec l'humilité, se recevoir de Dieu. C'est finalement tout le ressort du péché originel. Adam et Ève sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ils proviennent de la bonté de Dieu. Ils connaissent Dieu parce que Dieu descend dans le jardin et Dieu a déjà fait une prime alliance avec eux. C'est l'amitié qui nous unit au bon Dieu. Et bien voilà que malgré ça, ils vont faire le jeu du monde et le jeu du démon. Arrière, loin de moi, Satan, dit le Seigneur. Et le Seigneur de dire que Satan est le père du mensonge et qu'il est homicide dès le commencement. Il cherche à nous perdre, et il est donc, dit le Seigneur, le prince de ce monde. Souvenons-nous, lorsque nous sommes entrés en carême, premier dimanche de carême, dans les tentations, le démon amène notre Seigneur Jésus le Christ en haut du temple de Jérusalem, le lieu le plus saint d'Israël où réside la présence de Dieu. Le démon a le pouvoir d'amener le Seigneur en haut du pinacle du temple. Et il lui fait contempler rien de moins que tous les royaumes de l'univers. Prosterne-toi devant moi et tout cela sera à toi. Et le Seigneur de refuser, car il ne faut adorer que Dieu seul. Alors bien sûr, le chemin de la vie chrétienne, c'est une voie étroite. Il nous faut renoncer à nous-mêmes, revêtir l'humilité, quitter l'orgueil. C'est facile à dire. Et au quotidien, il faut s'efforcer de s'amender, s'efforcer de faire des progrès, raison pour laquelle le sacrement de la confession est si utile, si vital à toute vie spirituelle authentique. Parce qu'on vient non seulement demander à Dieu le pardon de ses péchés, mais avant cela, comme le Fils prodigue, nous sommes entrés en nous-mêmes pour regarder dans un examen de conscience ce que nous avons fait de bien, mais aussi ce que nous avons fait de mal, ce que nous aurions pu faire de mieux si nous ne nous étions pas récupérés, ce que Dieu aurait pu accomplir en nous. Et voilà que le Seigneur, non seulement dans le sacrement de confession, pardonne nos péchés, mais en plus, il donne et accorde une grâce de persévérance pour demeurer dans le bon combat. Le Seigneur le dit lorsqu'il prend la parabole du vigneron. Il dit la vigne que nous sommes, il faut que je l'émonde, il faut la tailler. Et c'est douloureux. Il faut la tailler, pourquoi, dit le Seigneur? Parce qu'il faut qu'elle soit plus forte pour porter davantage de fruits. Alors que le Seigneur nous appelle à aller à sa suite et que nous sommes chacun à la suite du Seigneur, nous venons de Dieu, nous retournons à Dieu. Nous n'avons pas tant à chercher la croix, car la croix, frères et sœurs, vous le savez sans doute mieux que moi, ne manque jamais de se présenter à nous. Elle se présente à nous. Ce peut être le veuvage, ce peut être la maladie, ce peut être la solitude, ce peut être plein de choses que cette croix du Seigneur. Et lorsque nous contemplons le Seigneur qui tombe en portant sa croix, nous contemplons le Seigneur qui se relève. Et si, lorsque l'épreuve de la croix se présente à nous, il ne nous semble pas sentir la présence du Seigneur à nos côtés, c'est peut-être que parce que, comme Simon de Cyrène, il est derrière à nous aider à porter cette croix que le premier il a portée, croix lourde de nos fautes et de nos lâchetés, croix lourde des péchés du monde et des nôtres. Cette croix lourde, le Seigneur y a été cloué dessus et la firme, élevée de terre. J'attirerai à moi tous les hommes. La leçon est dure pour les apôtres, surtout la remontrance du Seigneur à l'endroit de l'apôtre Pierre. Voilà pourquoi, ensuite de cet évangile, après avoir annoncé à trois reprises sa passion, il va les inviter sur cette haute montagne, quelques-uns de ses apôtres, pour être transfigurés devant eux, pour leur montrer que le terme ultime de la vie chrétienne, le terme ultime pour se mettre à la suite du Seigneur, c'est pas la croix en elle-même. La croix, c'est le passage. Je suis la porte, affirme le Seigneur. La croix, c'est le passage, c'est la Pâque que le Seigneur ouvre dans l'impossible du péché et de la mort, dans l'impossible de notre monde. Le bon Dieu ouvre un chemin, celui de la grâce, de la rédemption et de sa miséricorde, parce que Dieu est amour. Alors il est transfiguré devant eux pour leur montrer que le terme, ce n'est pas la mort, la souffrance, que le terme, c'est la vie éternelle en paradis. C'est le Christ est ressuscité d'entre les morts, et il a fait par le baptême de chacun d'entre nous des enfants de sa résurrection. Alors, comme il le dit à Nathanaël, il nous faut chacun naître d'en haut. Et ce baptême est pour nous une renaissance. Et en confessant nos péchés, voilà que l'on cultive cet esprit d'enfance où Dieu se révèle à nous comme notre Père et révèle alors combien nous sommes ses enfants et ses enfants de prédilection. Comme Jérémie, nous l'avons entendu dans la première épître, nous avons alors à nous présenter au Seigneur en nous disant « Seigneur, vous m'avez séduit et je me suis laissé séduire ». Nous avons aussi à entendre saint Paul nous dire « Attention à l'esprit du monde, ce n'est pas l'esprit de Dieu ». Alors avançons à la rencontre du Seigneur. Il a relevé la pécheresse pardonnée, il nous relève de nos fautes et nous dit à chacun « Va, ne pêche plus, je vous attends de l'autre rive, entrez, bon et fidèle serviteur, dans la joie de votre maître et vous, Seigneur, ayez pitié de nous ».